complicité que vous avez partagée avec Isidore et Clémentine. On vous voit très souvent rire aux éclats, aux blagues et aux réparties des marionnettes, surtout Isidore. Lorsqu'on voulait savoir, est-ce que les blagues, est-ce qu'elles étaient scénarisées, un petit peu écrites à l'avance, ou est-ce que vous les découvriez en direct au fil des humeurs des marionnettistes ?
Mais écoutez, c'était vraiment au fil des humeurs, comme vous le dites, parce que pour des raisons de timing ou de planning, on avait malheureusement, et heureusement peut-être certainement, pas le temps d'écrire des textes, parce que pour revenir un petit peu à l'émission et à la pratique, on enregistrait une semaine en une journée. C'est-à-dire que ça faisait cinq émissions et parfois après l'émission du matin et l'émission de l'après-midi. Donc il n'était pas question d'apprendre quoi que ce soit et on y allait comme ça franco. Tout le monde avait le conducteur qui était assez détaillé aussi bien sur le contenu des dessins animés que des variétés qui elles étaient enregistrées à l'avance pour parce que c'était assez long à enregistrer donc pour pas perdre de temps. Oui. Et puis l'émission se déroulait comme si c'était du direct, donc il n'y avait pas du tout de montage. Et puis les marionnettes réagissaient en fonction des chanteurs invités ou des dessins animés. Simplement, on lançait les reportages des infos, je leur donnais juste la thématique, et puis après, à eux d'improviser. Et puis Isidore et Clémentine s'en donnaient à cœur joie, et puis essayaient de me mettre parfois dans l'embarras, et ce qui expliquait parfois les sourires, parce que il se passait aussi des choses pendant les dessins animés, bon, ils faisaient un peu de bêtises, et quand on arrive à l'antenne, j'avais encore le souvenir des bêtises, donc c'était pas toujours évident.
C'est sûr, ouais. Donc vous n'aviez pas de pause pour visionner les dessins animés ou pour assister aux séries?
Non, parce que si vous voulez, donc on les voyait à l'antenne. Oui. Et puis moi j'avais vu bien sûr les dessins animés, pas la totalité des dessins animés, mais j'en voyais une dizaine ou une quinzaine de chaque série pour savoir un peu quelle était l'idée. Puis aussi oui. J'avais choisi à la fois dans, on en parlera peut-être plus tard, mais dans le stock et puis dans les dessins animés nouveaux. Oui. Donc je connaissais les dessins animés. Et puis pendant la série, le feuilleton de fin, c'est-à-dire qui durait 26 minutes, ça nous permettait de préparer l'émission suivante, donc d'installer le bricolage. Les 26 minutes étaient non pas la pause, enfin c'était une pause si vous voulez, l'émission continuait à être enregistrée, mais nous on passait déjà à l'émission suivante.
D'accord.
Donc après un petit break et puis remaquillage et on repartait pour la suivante.
D'accord. Est-ce qu'on était toujours dans cette ambiance bon enfant avec le reste de l'équipe ou est-ce qu'on baignait dans un cadre plus professionnel qu'on pouvait le voir à l'antenne, enfin surtout sous un regard d'enfant ?
Non, je crois que l'ambiance était là en permanence parce que d'abord, ça aurait été très difficile, comme les journées, je vous dis, démarrer à 9h et se terminer à 20h. Oui. S'il y avait eu des tensions à une partie de la journée, ça aurait rejailli non pas sur une émission mais sur une série d'émissions, donc ça aurait été vraiment préjudiciable. Donc comme l'équipe était assez réduite, aussi bien sur le plan de la technique que sur le plan des assistants et autres, il fallait vraiment que l'ambiance soit là. Je vous dis pas qu'il n'y a pas eu parfois quelques petits soucis, mais c'était
sûr,
vraiment très très rare. On pouvait pas se permettre d'avoir une tension non pas permanente, mais même épisodique, parce que ça aurait gâché vraiment tout et ça se serait vu à l'antenne, parce que on n'avait pas le temps de dire on fait une pause, tout le monde se calme et on redémarre. C'était pas possible. Donc il fallait vraiment que chacun garde sa bonne humeur et puis sa sérénité.
D'accord. Bon, d'autant plus que vous aviez deux sympathiques marionnettes pour détendre l'atmosphère, j'imagine. Parce que oui, Croque-Vacances, c'est Claude Pierrard. Mais ce n'est pas que Claude Pierrard. C'est les fameuses mascottes Isidore et Clémentine. Et on voulait savoir qui avait eu l'idée, que tout le monde considère comme géniale, de créer Isidore, Clémentine, et puis plus tard Arsinoé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée leur création, comment vous avez trouvé leur nom, etc.
Bien sûr. Alors donc, moi, il n'était pas question que je présente tout seul, parce que ça aurait été d'une tristesse, ça aurait fait vraiment, oui. Je veux dire, présentateur pas loin de la speakerine, donc il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Donc il n'était pas non plus question de reprendre un animateur, parce que le duo, ça existait déjà sur les visiteurs du mercredi, oui. Avec Patrick Sabatier et Soisy Korn. Donc il fallait créer quelque chose d'autre. Donc les marionnettes, c'était un petit peu l'idée, parce que les marionnettes sont beaucoup plus insolentes, et puis elles ont l'avantage de plaire à tout le monde, aussi bien aux plus petits, et puis aux plus grands, et même j'allais dire aux adultes, par les réparties, en particulier d'Isidore, oui. Tout le monde y trouvait son compte, ce qui n'est pas forcément le cas avec un présentateur qui s'adresse plus particulièrement à une tranche d'âge assez spécifique et plus réduite.
D'accord.
Donc c'était bien. Il fallait trouver, en ce qui concerne la thématique d'abord, éviter tous les personnages qui existaient déjà. Donc moi je voulais absolument quelqu'un ou un personnage réel, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire un Brock et Schnock ou un Casimir, des personnages qui n'existent pas dans la vie, mm-hmm. mais de retrouver un animal qui existe. Il fallait un animal qui soit à la fois proche de l'humain, sans être un chien ou un chat, mais qui puisse avoir aussi une ouverture vers la nature et l'extérieur. Donc le lapin convenait très bien. Pour tout vous dire, dans un premier temps, on avait pensé à une chouette. L'émission se sera appelée Chouette Vacances. Bon, c'était pas forcément une bonne idée, qu'on a vite arrêté dans la conception, parce qu'on s'est dit, la chouette, d'abord, c'est un animal qui fait peur à certains enfants, et qui n'a pas forcément une bonne réputation. Il y avait déjà, je crois, sur une autre chaîne, un hibou, donc on était un petit peu dans la même thématique, donc il fallait vraiment changer. En ce qui concerne le nom, je vais vous dire une chose, je ne m'en souviens plus très bien. On choisit toujours des prénoms avec trois syllabes, ça c'est comme Casimir, autre. Il paraît que ça se retient mieux, et je crois que c'est vrai, plutôt que deux prénoms, enfin que deux syllabes ou autre. Assilion, je peux vous dire comment ça s'est passé. Ben, écoutez, Assilion, c'est simple, on a pris l'alphabet de tous les prénoms, et puis on s'est dit, il faut trouver quelque chose qui n'existe pas, ou que les enfants ne portent pas comme prénom. Et puis donc, on n'est pas allé très loin, parce que vous voyez, de A, on est arrivé à AC, donc pour Assilion. Isidore et Clémentine, je ne me souviens plus, donc c'est sûrement un travail en commun, on a dû se dire oui, ça sonne bien et tout, et puis il fallait aussi trouver un prénom qui ne soit pas porté par les enfants, parce que ça aurait été parfois un petit peu difficile que les enfants, qui un prénom donc pas trop courant pour les jeunes. Alors, ce qui concerne Arsinoé, oui. Bon, ça, c'était les éditions Magnard qui avaient décidé, donc avec qui on a décidé de faire les premiers cahiers de vacances télévisés. Oui. Donc il fallait un personnage qui puisse avoir un peu de hauteur, qui ressemble pas à Casimir, parce que contrairement aux marionnettes Isidore et Clémentine qui étaient animées par des tiges qui passaient par les oreilles, sur un fond bleu, les marionnettistes étaient au-dessus. Donc Arsinoé, le personnage était à l'intérieur. La marionnettiste ou la manipulatrice était à l'intérieur. Donc il fallait un personnage assez imposant, et puis bon, Arsinoé, parce que le hérisson, un petit peu aussi l'intelligence et tout, qui correspondait bien à l'idée des cahiers de vacances.
Très bien. Vous voyez quand même, vous vous souvenez quand même de beaucoup de détails. une autre question que beaucoup de personnes se posent, que sont devenues ces marionnettes, notamment Isidore et Clémentine? Est-ce qu'elles ont été conservées quelque part, religieusement, dans un musée, ou est-ce qu'elles ont été perdues, voire détruites ?
Non, elles n'ont pas été ni perdues ni détruites, elles ne sont pas encore dans un musée. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, elles sont du côté de Marseille, chez Christian Dugas. Alors Christian était l'animateur et la voix de Clémentine.
Oui.
Et pourquoi elles sont chez lui ? Pas simplement parce que c'est son frère, Denis Dugas, qui a créé les deux marionnettes. Donc, elles sont restées dans la famille, et Christian les ressort, non pas régulièrement, mais les a ressorties il n'y a pas très longtemps pour un reportage sur M6 dans l'émission 80 à l'heure, qui sont allés tourner chez lui, où il a remis en vie, si j'ose dire, les deux marionnettes qui sont donc rangés, comme vous dites, religieusement.
Ah, très bien, bon, mais qu'il les conserve précieusement, c'est parfait. Voilà. C'est très bien qu'il continue à les faire vivre de temps en temps.
Exactement, parce que pour tout vous dire, eh bien, aussi bien Christian que François Guizrix, qui est un marionnettiste de talent, qui travaille d'abord en particulier sur les guignols de l'info,
oui.
Et qui, là en plus, avait la voix, ce qui n'est pas le cas sur les guignols, où les voix sont faites par des imitateurs.
Oui.
Donc c'est des gens qui s'étaient presque imprégnés du personnage, c'est-à-dire qu'on se demandait qui était Isidore et qui était François, ou qui était Clémentine et qui était Christian. Ils arrivaient, après plusieurs semaines de tournage, on confondait un petit peu leurs attitudes, et même eux le disaient, ils rêvaient de leur marionnette, et c'était pas, et même pendant, comme je vous l'ai dit, pendant les dessins animés, ils les faisaient vivre, ils les posaient pas dans un coin en attendant que la séquence suivante, donc c'était un show permanent, quoi.
D'accord. et ils tenaient à être vraiment proches de leur personnage, mais est-ce qu'ils ont mangé toutes les carottes que les enfants leur envoyaient?
Non, ça vous... Je pense que vous faites allusion à une bêtise de ma part, si j'ose dire. Un jour, Isidore dit j'aimerais bien des carottes, envoyez-moi des carottes. Bon, c'est tout, on a lancé là. Bah, j'ai dit, écoutez, si vous voulez envoyer des carottes à Isidore, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que ça a marché et qu'on a reçu des sacs entiers, enfin des enveloppes avec une ou deux carottes. Mais le problème, c'est que certaines ont été un petit peu stockées par la poste avant qu'on les ouvre, et elles arrivaient dans un état un petit peu épouvantable. Donc, il n'était même pas question si ça avait été des vrais lapins de les manger, quoi. Mais voilà comment on se fait attraper par une petite blague qui paraît anodine, et puis après, je peux vous dire que quand les gens voyaient arriver les sacs Rucogne XG, on disait, allez, c'est encore un coup de grandes vacances. Donc,
très bien. On va parler à présent des reportages, des séries et des dessins animés qui étaient aussi nombreux dans Croque Vacances. Et là aussi, bon, j'imagine que vous deviez également choisir les dessins animés ou les séries avant l'émission, bien sûr. Vous aviez bien sûr votre mot à dire. Vous aviez le droit de vous opposer totalement à la diffusion d'une émission ou d'une série.
Oui, si vous voulez. Bon, comme l'émission marchait bien, on me disait bon, bah tu peux te permettre de faire des rediffusions, ce qui n'était pas trop gênant parce que il y avait des dessins animés qui passaient dans de nombreuses émissions sur TF1. Donc j'avais un choix important dans ce qu'on appelle les rediffusions, parce que les droits en général sont achetés sur 2 ans pour une, deux, enfin en général plutôt 2 ou 3 diffusions. Donc il était absolument impératif de les réutiliser. Et puis, je voulais quand même avoir des choses qu'on ne voyait pas dans les autres émissions au cours de l'année. Donc j'allais au MIP TV, qui est le marché de la télévision à Cannes, où je choisissais des émissions, en particulier, surtout quand il y a eu Croque Vacances spécial Noël, où là, beaucoup de sociétés de production de dessins animés font des choses particulières pour Noël, avec la thématique des fêtes de fin d'année et un peu de la féerie de ces périodes-là. Donc là, j'avais des dessins animés inédits qui étaient donc en général même rediffusés les années suivantes, parce qu'il fallait, comme je vous l'ai dit, les rentabiliser. Donc je pouvais aussi m'opposer en disant non, ça j'en veux pas, parce que c'est trop proche de quelque chose qui est fait sur la chaîne ou sur une chaîne concurrente. Enfin, les chaînes concurrentes, il n'y en avait pas beaucoup, puisqu'il y avait que la 2 et après il y a eu la 5. Donc c'était... Puis j'évitais aussi tous les dessins animés un petit peu... pas violent, parce qu'il n'y en a jamais eu sur TF1, mais tout ce qui représentait un petit peu les robots sans faire de l'anti-Goldorak, primaire, si j'ose dire, j'évitais un petit peu tous ces dessins animés-là. Je cherchais plutôt des choses plus sympathiques et moins belles dans le graphisme du dessin animé, comme Madame Pepper Pot ou Par les sentiments, style Calimero. Oui. Et puis j'aimais bien aussi les dessins animés qui apprenez quelque chose, tout en étant ludique et amusant, style Vic le Viking, qui nous apprenait un petit peu l'histoire de tous ces pays du Nord, ou Rémi, qui est certainement un de ceux que je préfère, puisque Rémi était tiré du roman d'Hector Malot, Sans famille, et donc permettait aux jeunes de découvrir un chef-d'œuvre de la littérature par un dessin animé. Je pense que peut-être l'idée, c'était que certains, après, lisent le livre Sans famille. D'accord. Après avoir vu Rémi.
D'accord, très bien. Donc ce sont les séries ou les dessins animés qui vous ont le plus touché? Il y en a eu d'autres?
Oui, parce que j'aimais bien Calimero aussi, parce que ça fait partie d'un mythe et d'une série culte. Oui. Et puis, en ce qui concerne les séries, j'essayais aussi, comme l'émission, on l'a su après, était également regardée par des adultes, par des parents, ou simplement des gens qui travaillent dans des métiers où, style par exemple la restauration, où le break est entre 3h et 6h l'après-midi, et donc ce sont des personnes qui regardaient la télévision. Donc remettre aussi, j'allais dire, déjà des séries cultes de leur enfance, style Thierry La Fronde ou Les Chevaliers du Ciel, donc même si c'était du noir et blanc. À l'époque, je veux dire que personne, quand on était en couleur, n'osait repasser du noir et blanc. Moi, je me suis dit pourquoi pas, donc on a on a repassé du noir et blanc et on s'est aperçu que ça marchait, que ce soit Zorro ou autre. Et maintenant, certaines chaînes n'hésitent pas à rediffuser des dessins animés en noir et blanc. Donc c'était un petit peu aussi un précurseur.
D'accord. Et justement, c'est toutes ces séries ou ces dessins animés qui étaient marquantes, hein, qui nous ont vraiment marqué, le Club des Cinq, la Pierre Blanche, Vic le Viking ou Dardar Motus, un petit peu plus récemment, toutes ces émissions ont très très peu été rediffusées depuis l'arrêt de Croque-Vacances. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on considère ces séries comme d'une autre époque, d'un autre âge, ou qu'ils soient vraiment inadaptées à la jeunesse actuelle?
Bah écoutez, je pense que certaines pourraient être largement rediffusées sans aucun problème, parce que d'abord ça ferait plaisir, par exemple, à tous vos internautes qui aimeraient peut-être les revoir, et puis permettre aux jeunes parents de montrer à leurs enfants qui regardent la télévision, ben voilà, ça c'est un dessin animé que je connais, et je pense que ça peut créer même un dialogue au sein de la famille, parce que les jeunes le découvrent, les parents le revoient avec plaisir et pouvoir en discuter. Non, je pense qu'il y a tellement pléthore de dessins animés, et puis maintenant il y a la concurrence des chaînes en se disant bon, on a la chance de pouvoir avoir des produits, et puis ça fait partie, bah, tant mieux pour les créateurs de dessins animés qu'on achète leurs nouveaux produits plutôt que d'aller puiser dans les archives de la télévision.
Très bien.